Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour la dernière émission de la semaine. Par les temps qui courent reçoit tous les soirs des artistes dans l'actualité culturelle. Ce soir, le réalisateur Roberto Minervini.
Un tango, une danse, un baiser.
Si tu peux t'appeler,
par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Marie Richaud.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Tout commence un soir de carnaval. Dans la nuit noire de la ville, les corps vivants convoquent les esprits des grands chefs indiens et de l'homme très très sauvage et l'on parade, déguisé, rieur, en hurlant qu'on va tous finir par les avoir. Mais qui a peur de qui exactement? Dans une maison abandonnée, deux adolescents avancent par ailleurs au rythme d'une lumière stroboscopique et le plus jeune pleure de frayeur. Ces deux-là, nous les suivrons ensuite au bord du chemin de fer, dans les terrains vagues ou écoutant les sermons inquiets de leur mère. Nous sommes dans le quartier de Tremé à la Nouvelle-Orléans, la communauté noire organise sa parole et sa lutte, notamment autour du parti des Black Panthers et du bar d'une dénommée Judy. Ces dernières années, plusieurs jeunes hommes noirs non armés se sont fait tuer par des policiers blancs et ces meurtres rappellent la brûlante actualité du racisme aux États-Unis, tandis que votre film se demande, dans un drôle d'accord des temps, qu'est-ce qu'on fera quand le monde brûle? Bonsoir Roberto Minervini.
Good evening. Thanks for having me.
Bonsoir, merci beaucoup.
Avec plaisir. What you gonna do when the world is on fire? C'est donc le titre de votre film. Il sort en salle la semaine prochaine et vous serez traduit vers le français ce soir par Chloé Billon. Bonsoir.
Bonsoir.
Hello YouTube. This is Creighton Burnett.
Bonjour YouTube. Je suis Creighton Burnett de la Nouvelle-Orléans. Car oui, nous sommes toujours là. Je voulais juste vous dire un truc à tous ceux qui se demandent ce qu'ils vont faire de notre ville. Allez vous faire voir. Vous vous demandez peut-être pourquoi reconstruire la ville. Je vous réponds, je vous emmerde. Vous avez bien reconstruit Chicago après l'incendie, San Francisco après le tremblement de terre. Alors que nous, toute notre foutue côte a été détruite. Et on est toujours en train d'attendre quelqu'un qui se bouge le cul pour nous, merde. En fait, vous voulez ignorer la Nouvelle-Orléans? Vous voulez annuler le carnaval? Alors, laissez-moi vous dire, ce mardi 28 février, où que vous soyez, ce ne sera qu'un mardi ordinaire, morose et complètement pourri. Mais ici, ce sera mardi gras. Alors, allez tous vous faire foutre.
Allez tous vous faire foutre, ce soir ce sera Mardi Gras, c'est donc un moment vif d'une vidéo YouTube dans la série de Tremé de David Simon et derrière on entend ici le Rebirth Orchestra. Peut-être pour commencer avec vous Roberto Minervini à parler de ce choix que vous faites comme une sorte de boucle, commencer votre film par le carnaval et le terminer par le carnaval. Pourquoi est-ce que c'est une fête qui vous paraissait suffisamment importante, significative pour en faire les deux bouts de votre œuvre?
That's the Mardi Gras of the Indians, which,
c'est le Mardi Gras des Indiens qui a lieu la nuit de la Saint-Joseph. Et cela, cela date du moment où les Noirs n'étaient pas autorisés à célébrer le Mardi Gras. C'est également le symbole de la mémoire collective, de l'identité collective qui reste vivante pour la communauté noire du sud des États-Unis. Le film s'ouvre et se ferme sur des séquences qui nous rappellent cette tradition. Pourquoi elle est encore présente ? Parce que si l'identité collective est bien vivante, alors la communauté est vivante. Le film commence donc par cette célébration de ce que c'est que de survivre.
Et alors, on vous diffuse aussi un extrait de cette série, parce que c'est une série qui faisait le choix de se baser dans le quartier de Tremé à la New Orleans. C'est aussi un choix que vous avez fait. Pourquoi ce territoire-là vous semblait pertinent pour traiter la question justement du racisme et des différentes communautés luttant pour leur survivance ?
Because Tremé is the hotbed for black culture.
C'est véritablement le berceau de la culture noire, de la culture afro-américaine. Cette culture afro-américaine est restée vivante grâce à la musique, entre autres. La musique africaine, qui a été importée aux États-Unis par les esclaves, cette musique n'a pas été enregistrée jusqu'au début des années 1930. Et les Noirs américains ont conservé leur propre culture et leur tradition bien vivante grâce à la musique. Pour moi, il était donc très important d'aller creuser profondément dans les racines de la musique africaine avant de pouvoir parler de l'histoire des Afro-Américains aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai choisi Tremé, également parce que Tremé, c'est tout à côté du quartier français, célèbre pour des bonnes comme des mauvaises raisons, et qui est véritablement maintenant le lieu de la consommation touristique et un quartier très blanc. Et c'est juste à côté de Tremé qui est rongé petit à petit par cette invasion de tourisme principalement blanc. Tremé est donc un espace de résistance culturelle, et d'un point de vue de la tradition, c'est un endroit très spécial dans le sud des États-Unis.
Vous parlez de l'invasion des touristes blancs, mais il est question, durant votre film Roberto Minervini, d'une autre forme d'invasion qui est celle des habitants blancs tout court avec le procédé de gentrification. Là encore, Tremé est un exemple pertinent pour essayer de décrire une Amérique qui d'un seul coup exclut une population qui vivait là depuis des années et qui ne peut plus payer les loyers des lieux dans lesquels elle a grandi.
Pays de rente anymore. Right, exactly. And that's why I talk about
tout à fait.
This invasion of white,
c'est pourquoi je parle
non-native, so
de cette invasion de blancs qui ne sont pas nés ici, donc touristes, visiteurs.
Shotgun houses by shotgun.
Aujourd'hui,
and those homes with one hallway that
voilà toutes ces maisons traditionnelles traversantes. Ce sont les maisons traditionnelles de ce quartier de Tremé. Et aujourd'hui, elles deviennent extrêmement attractives pour ce marché du Airbnb. Les touristes sont prêts à payer un prix très élevé pour être là pendant tous ces concerts, toutes ces célébrations musicales qui ont lieu à New Orleans. C'est pourquoi les Noirs, qui vivent là-bas depuis des centaines d'années, sont en train d'être expulsés de leur quartier vers un autre quartier nommé Wards, donc un quartier qui entoure Tremé. Et certains de ces quartiers sont complètement dépourvus d'infrastructures, extrêmement dangereux. Donc cette gentrification est en fait à l'origine d'une ségrégation moderne.
Alors pour parler peut-être plus précisément de cinéma, ce carnaval-là a aussi un rôle dramaturgique dans la manière dont vous construisez votre film, Roberto Minervini, puisque vous n'y entrez pas d'un point de vue très festif et joyeux, mais d'un point de vue très inquiétant. Les premiers moments de votre film, on ne sait pas quelle créature est en train de hurler dans la rue, de même les adolescents sont perdus comme ça dans une maison abandonnée avec une lumière tranchante et stroboscopique, comme si vous nous disiez d'abord et avant toute chose que l'histoire que vous racontez est une histoire de peur.
Yeah, and that's why I call them Mardi Gras of the Indians, of the
J'appelle cela le Mardi Gras des Indiens, des Noirs. C'est une célébration de la survie. La survie, c'est la vie, certes.
And that's why those sequences
c'est pourquoi
are impenetrable.
They're, ces séquences sont impénétrables, c'est délibéré,
that's
le fait qu'elles soient mystérieuses, c'est un choix de ma part, parce qu'il y a de la peur dans l'air. Cette peur qui est inhérente à cette célébration du Mardi Gras par les Noirs, la peur d'être en danger, la peur de perdre son territoire, la peur de perdre cet espace de célébration. Ils célèbrent la vie. Grâce à la musique,
Mardi Gras, that is specific to Indians, used to be a very violent celebration. It was a fight.
Et ça, c'est spécifique au Mardi Gras des Indiens, était auparavant une célébration extrêmement violente. Il y a eu un moment pendant que je filmais cela où on m'a frappé dans mon dos par des cornes de taureau et j'ai vraiment été blessé. Et c'était parce que j'étais au milieu d'une bataille entre deux chefs indiens. Il y a 20 ans, on m'aurait sans doute poignardé à mort. Les choses évoluent. Mais la peur appartient intrinsèquement à cette célébration extrêmement passionnée, cette bataille passionnée qui est une bataille symbolique pour la survie.
Et je voulais aussi, pour poursuivre cette grande introduction avec vous, Roberto Minervini, parler du titre qui introduit une sorte d'inquiétude aussi, je le disais, dans un accord des temps particulier, puisque en anglais, c'est « What you gonna do when the world is on fire ?» Si j'essaie de le traduire en français, ce serait « Qu'est-ce que vous allez faire quand le monde est en feu ?» Il y a du futur et il y a du présent, comme si c'était presque déjà trop tard.
Yeah, definitely we need to adopt make
fait,
a choice in terms of historical perspective.
How il nous faut faire des choix en termes de perspective historique. Cela détermine comment nous voulons répondre à cette question.
What originally that title, what it means originally,
on peut se demander également ce que veut dire ce titre à l'origine. Cela vient d'un gospel. Il y a 150 ans, la réponse à cette question aurait été, eh bien, je vais courir voir ce que mon maître va faire.
So it doesn't talk about death, it talks about salvation.
Donc ce gospel ne parle pas de la mort, il ne parle du fait d'être sauvé. Et je rappelle que mon film parle de la lutte pour la survie. Il y a donc quelque chose de positif, également de puissant dans ce titre.
Now, what is the answer?
Mais quelle est la réponse à cette question? La question, si je parle de ça à Judy Hill, qui est ce personnage féminin de mon film, et Judy m'a dit, ça dépend. Elle aime bien dire voilà dans son argot. Oui, vous, les Blancs, j'imagine que vous prendriez la fuite, demanderiez à être sauvés, et probablement vous seriez sauvés. Mais pour nous, si nous ne brûlons pas dans les flammes, eh bien nous devons courir et nous sauver par nos propres moyens. Et peu importe quelle est la période historique, la réponse à la question, je pense que c'est ce qui est important dans cette question, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique. Ça dépend aussi de la couleur de votre peau, ça dépend de votre origine, et c'est symptomatique de la lutte des classes, d'une certaine manière.
Mais
c'est pour ça. Que moi, je pense que si le monde prend feu, moi, je m'en sortirais, mais je voulais faire un film sur les gens qui peut-être ne s'en sortiraient pas.
Vous évoquez Roberto Minervini, le personnage de Judy. Elle n'est pas la seule, mais c'est un personnage fort. On entend un extrait de votre film où elle parle.
Le peuple noir est maudit depuis longtemps. Je parle de l'époque où ma grand-mère était une petite fille. Tout le monde est conçu dans le péché, aux yeux de Dieu. Personne n'est parfait. Mais en tant que noir, on a été rejeté depuis très longtemps. J'ai lu le livre « Comment briser un esclave » écrit par Willie Lynch. Je me rappelle ce que me racontait ma grand-mère. Je restais à la maison et j'écoutais toutes ces chansons. Je me régalais de chaque parole. Je m'en souviens et j'en remercie le Seigneur. Il y a un passage dans ce livre où cet homme dit à un autre, je vais te montrer quoi faire avec ces nègres. Ils ne veulent pas bien agir, je vais te montrer quoi faire. Va me chercher deux ânes. Attache les jambes du nègre à l'âne. Amène sa femme et son fils. Je veux que tu frappes cet âne sur son derrière et que tu écartèles ce nègre. Une fois que cette femme aura vu ce qu'on a fait à son mari, elle va apprendre à son nègre de fils à ne pas déconner avec nous. C'est comme ça qu'ils brisaient les esclaves. Et c'est pour ça qu'on a toujours eu le respect. Même aujourd'hui, on voit la police, on voit les blancs. C'est dans notre ADN. Le respect de l'homme blanc est déjà en nous. On ne veut plus vivre comme ça. On a été libérés, mais nous sommes toujours des esclaves, nom de Dieu. Quand cette femme nourrit son enfant, elle le nourrit de peur. Quand elle était enceinte, elle avait peur. Ils sont nés pour avoir peur.
Je disais tout à l'heure, Roberto Minervini, que vous signez peut-être là un film sur la peur, la survie et la puissance, certes, mais sur la peur. On entend donc ici Judy dire s'il y a une mère noire et qu'elle nourrit des enfants, elle nourrit la peur. Peut-être nous dire comment vous avez rencontré ce personnage-là, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas prononcé le mot de documentaire, à raison, parce que j'avais plus envie de parler d'un film que d'un documentaire, mais néanmoins, vous filmez des personnes qui existent et qui et que vous filmer en train de vivre vraiment. Alors on va parler de la rencontre avec cette femme-là, si vous voulez bien.
J'ai rencontré Judy en traînant dans son bar où j'allais boire quelques bières le mercredi soir. Le mercredi soir, c'est là qu'elle chantait avec son groupe. Et c'est comme ça que tout a commencé il y a 3 ans. À l'époque, je n'avais pas la moindre idée que j'allais travailler avec Judy. Et Judy a été la porte qui m'a ouvert sur cette communauté. J'ai rencontré tout le monde par l'intermédiaire de Judy. Judy a une conscience politique très forte qui s'exprime dans plusieurs scènes du film. Elle est l'un de ces cas où, à chaque fois que je suis avec Judy, que je l'écoute, eh bien, j'écoute une véritable sagesse qui vient de ses expériences. Et je ne peux m'empêcher de penser, elle incarne un cas d'injustice sociale, de circonstances. En fait, elle est née dans une situation où elle n'a pas fait d'études, elle a décroché très tôt de l'école. Et elle n'a pas pu avoir une scolarité classique à cause des circonstances. Donc Judy, pour moi, incarne les circonstances et ce qu'elles imposent à la population noire. On a traîné ensemble pendant 3 ans et au bout d'un moment, je me suis dit que peut-être qu'à partir de cette amitié, je devais faire un film.
Comment est-ce que vous êtes passé de boire des bières à rencontrer toute cette communauté et à pouvoir assister aux scènes les plus intimes de la vie quotidienne, de discussions, là on l'entend dans son bar, on sent que c'est une parole très publique, mais il y a d'autres moments dans votre film, Roberto Minervini, où il est vraiment question de choses très 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 ténues, très intimes, très familiales. Comment s'est fait ce trajet?
C'est une question qu'on me pose souvent et je trouve toujours qu'il est très difficile d'y répondre. On ne peut pas véritablement exprimer ce processus, c'est très humain, c'est très banal en un sens. Il s'agit juste d'être ouvert et honnête avec les gens. Et moi, je viens sans filtre. Quand je rencontre les gens, j'essaye d'être très clair, de m'exprimer ouvertement, mais ça ne s'arrête pas là. Et chaque déclaration d'intention, chaque pensée doit être suivie d'une action, d'acte.
Et
pour moi,
partageaient également leur intimité. Cela impliquait de partager les moments difficiles, les moments de lutte. Et je parle là également des dangers physiques concrets auxquels nous avons été confrontés ensemble. Souvent, j'ai même eu à les protéger de ce danger. Il y a eu des fusillades, et puis parfois, j'ai été une sorte de médiateur. J'ai utilisé mon pouvoir, en quelque sorte, pour protéger cette communauté. Donc, il s'agit de partager des expériences. Mais notre relation, d'une certaine manière, est semblable à un mariage. On est ensemble pour le pire et le meilleur. Et il faut être ouvert. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. On se sépare, on divorce. Mais ce qui est très important, c'est de préciser que les histoires que je présente dans ce film, en fait, c'est des success stories. C'est des gens qui ont réussi à s'en sortir. Mais pendant tout le temps où j'ai filmé ce film, pendant ces 3 ans, en fait, beaucoup des histoires m'ont échoué parce que, tout simplement, les gens que je voulais filmer ont disparu entre-temps. Et bon, voilà, pour revenir sur cette question d'intimité, il s'agit juste d'être ouvert, honnête, les uns avec les autres.
Et ce que permet aussi Judy, c'est un lieu particulier qui est ce bar, comme une sorte de point névralgique de votre film, où les gens se rencontrent, partagent un savoir historique, partagent des modes de lutte politique, mais aussi juste boivent des coups et écoutent de la musique. Pour vous, c'est aussi d'un point de vue cinématographique, c'était aussi intéressant d'avoir cet endroit-là, Roberto Minervini, pour construire votre film ? Place as a center to
build your movie around. Yeah, definitely. Cinematographically,
d'un point de vue cinématographique, ça a été très positif pour moi que d'avoir cet espace physique, ce contexte, où je pouvais observer les dynamiques sans interruption. Il y avait une continuité. Cet espace transcende le film.
Il existait avant,
c'est une situation préexistante qui a évolué avec le film. Et il est important pour moi de préciser que je ne prévois pas des moments de mon film à l'avance en me basant sur un lieu. Mais comme vous le dites, vous avez raison, c'est un point névralgique
du
contexte que je décris. C'est un endroit où les gens peuvent venir librement, une bière à la main, et s'exprimer. C'est un lieu de catharsis. Et parfois une catharsis musicale également. Mais comme Judy le dit dans le passage que vous avez joué, quand elle allait chez sa grand-mère dans le sud, elle écoutait de la musique et écoutait ce que disait sa grand-mère. Donc elle dit, je mangeais ses mots à la petite cuillère, je buvais ses paroles. Et puis elle lisait des livres et en parlait. C'est donc un cycle, une sorte d'éducation par l'expérience. Et c'est ce qu'est ce bar également, c'est un lieu d'éducation, de formation. Et c'était fantastique pour moi que d'être là pour boire quelques bières, mais également pour faire partie de ce projet éducatif.
Évidemment, votre place est particulière parce que vous êtes cinéaste, Roberto Minervini, mais aussi parce que vous êtes blanc. Comment s'est négociée cette singularité au milieu de la transmission des expériences de violences faites aux personnes noires, mais aussi des récits qui concernent spécifiquement cette communauté-là aux États-Unis? Est-ce que vous avez toujours eu une place de distance?
No, I mean, since again, I'm always bringing the white perspective.
Moi, j'apporte toujours la perspective blanche. Et on en parle. C'est donc un échange de points de vue. Donc, non seulement la perspective blanche, mais la perspective blanche américaine et la perspective blanche européenne. Ce sont des éléments qui deviennent partie intégrante de ce projet d'éducation. Et où on peut boire les informations littéralement et en parler. Alors, il y a une intimité, une proximité Et pour moi, l'intimité, c'est cet endroit sûr où on peut être qui on est sans avoir peur d'être rejeté, d'être jugé. Et quand on a cette intimité avec quelqu'un, on partage l'amour, la passion, mais également les dangers et la tristesse. J'ai toujours été très proche de cela, et le fait que je sois blanc ne m'a pas protégé du danger dans ma vie. Mais il y a là quelque chose d'autre. Ce n'est pas uniquement le danger, mais comment est-ce qu'on gère la peur ? Oui. La peur, pour moi, est toujours venue du fait que j'avais le choix. J'étais venu là-bas par choix. Je faisais partie de leur cercle. Et pour eux, en fait, la peur était une condition inévitable dont on ne pouvait s'échapper, alors que pour moi, c'était un choix. Je pourrais très bien être dans un endroit bien plus sûr si je n'avais pas choisi d'être là. Et souvent, j'ai eu envie de m'enfuir. J'ai ressenti cette impulsion, mais en fait, c'est ça qui a été le signal d'alarme où je me suis dit non, je dois rester, parce que je me suis rendu compte que j'avais une peur d'homme blanc, une peur d'homme qui a le choix.
Est-ce que vous diriez, Roberto Minervini, que parfois la parole des personnes qui s'expriment, qu'il s'agisse de Judy ou qu'il s'agisse d'une autre femme, Crystal, qui est, elle, à la tête d'un groupement des Black Panthers, que la parole que vous filmez de ces femmes noires s'adresse aussi à l'auditeur blanc que vous êtes, à l'auditeur homme blanc que vous êtes, que vous entrez vous aussi dans un processus d'éducation?
Oui, absolument. C'est un élément. Nous sommes en train de faire un film, donc on s'embarque dans un voyage. Moi, je suis quelqu'un qui travaille dans les médias. Ce sont des facteurs qui rentrent tous dans cette équation. Comment interagir les uns avec les autres? Quelles sont nos relations? Et nous savons qu'il y a un projet à la fin. Nous savons qu'il y a un temps limité. Et qui sait ce qui nous attend? Qui sait où la vie nous mènera? Donc, quand nous avons tourné ce film, que nous avons vécu ces moments ensemble, on l'a fait avec un sentiment d'urgence, comme si c'était le seul moment que nous avions pour mener ce projet à bien, le seul moment que nous avions à partager. C'est pourquoi toutes ces femmes fortes, et on pourrait peut-être parler des personnages féminins dans le film, quand ces personnages féminins parlaient, ils savaient qu'ils parlaient à moi et que, par mon intermédiaire, ils parlaient aussi au public, qui leur apportait une perspective sur ce qui se passait là-bas. Donc l'immédiateté de ce qui se passe, qui est documentée par moi-même, c'est également influencé par cette perception de ce qui va se passer. Donc, le film n'aurait pas pu être tourner de la manière dont elle était tournée, s'il n'y avait pas eu ce réalisateur blanc européen comme contrepoint à leur discours.
France Culture parle de Tom Ticourt, Marie Richaud et Roberto Minervini.
No, I wasn't raised at gunpoint, and I've read too many books to distract me from the mirror when unhappy with my looks, and I ain't got proper diction for the makings of a thug, though I grew up in the ghetto, and my niggas also drugs. And though that may validate me for a spot on MTV, or get me all the airplay that my bank account would need, I was hoping to invest in a lesson that I learned, and I thought this fool would jump me just because it was my turn. I went to an open space cause I knew he wouldn't do it, if somebody there could see him, or somebody else might prove it. And maybe in your eyes, it may seem I got punked out, cause I walked a narrow path, and then went and changed my route. But that openness exposed me to a truth I couldn't find in the clenched fists of my ego or the confines of my mind, in the hipness of my swagger or the swagger in my step, or the scowl of my grimace or the meanness of my rep. Cause you represent a truth, son, that changes by the hour, and when you open to it, vulnerability is power. And in that shifting form you'll find a truth that doesn't change. That truth's living proof of the fact that God is strange. Talk to strangers when family fails and friends lead you astray. When Buddha laughs and Jesus weeps and turns out God is gay. As angels and messiahs, love can come in many forms. In the hallways of your projects or the fat girl in your dorm. And when you finally take the time to see what they're about, and perhaps you find them lonely or their wisdom trips you out. Maybe you'll find what cycles into your back where you began. But come this time around, you'll have someone to hold your hand. who prays for you, who's there for you, who sends you love and light, exposes you to parts of you that you once tried to fight. And come this time around, you choose to walk a different path. You'll embrace what you turned away and cry at what you laughed. Cause that's the only way we're gonna make it through this storm, where ignorance is common sense and senselessness the norm. And flags wave high above the truth and the two never touch. And stolen goods are overpriced and freedom costs too much. And no one seems to recognize the symbols come to life. The bitten apple on the screen and Jesus had a wife. And she was his messiah, like that stranger maybe yours, who holds a subtle knife that carves the worlds like magic doors. And that's what I've been looking for, the bridge from then to now. Was watching BET like, what the fuck, son, this is foul. But that square box don't represent the sphere that we live in. The earth is not a flat screen, I ain't trying to fit in. But this ain't for the underground, this here is for the sun. A seed a stranger gave to me and planted on my tongue. And when I look at you, I know I'm not the only one. As a great man once said, there's nothing more powerful than an idea whose time has come.
Quand je vais à l'école, 30% de mon cerveau est dédié à me maintenir en vie. Comment est-ce que je vais? De quel côté du trottoir? Quels sont les vêtements que je dois porter? Qu'est-ce que je fais après l'école? Avec qui je vais être assis pendant le repas? Tout ça se portait sur la peur et la violence. La plus grande partie des enfants blancs aux États-Unis n'ont pas besoin de penser comme ça. La grande majorité des enfants noirs aux États-Unis doivent réfléchir à ça. Pour moi, c'est la différence la plus explicite. Et puis, après, bon, il faut travailler à l'école comme n'importe quel autre enfant.
One of the criticisms of the book that I got over and over again was,
une des critiques,
you know,
contre le livre,
where's the hope?
C'est où est l'espoir?
And there's this expectation,
et il y a cette attente, particulièrement parmi les écrivains afro-américains, que l'on va écrire quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui va dire aux gens, allez, c'est pas grave, le soleil brillera demain, tout ira bien. Et je l'ai dit au début de cette interview, je voulais exprimer quelque chose. C'était véritablement l'émotion la plus élevée que j'ai ressentie. C'est ce qui m'a poussé à écrire. Et mon émotion, c'est pas que les choses allaient aller bien. Non, je me ressentais pas du tout comme ça. Je sentais le sorrow, la peine.
C'est la voix de Ta-Nehisi Coates à la Grande Table en 2016, parlant de la lettre écrite à son fils et de tout ce qu'il a écrit autour de la colère noire. Deux choses, peut-être ce qu'il dit des enfants noirs américains et la manière dont la peur occupe une partie de leur esprit. C'est exactement un propos qui est tenu par les personnages de votre film, Roberto Menervini, pour dire que les inégalités commencent tout enfant. Est-ce que c'est une raison pour laquelle vous avez choisi de faire, en dehors de ces personnages de femmes fortes de votre film, de faire de deux adolescents, de deux enfants presque, les personnages quasiment principaux?
Of course. Yeah, being a child,
oui, bien sûr,
être
un enfant né et qui grandit dans ces conditions préexistantes, donc cet héritage culturel qu'ils reçoivent, héritage culturel qui est lié à l'idée de survivre. Et je reviens également sur cette idée, voilà, de boire ces informations. C'est ce que la mère fait avec ses enfants. Ses enfants sont éminemment conscients de leur histoire. Et Titus, par exemple, ce garçon de 10 ans parle de Mohamed Ali et de Matteo. Ils se demandent ce qui se passerait, quel serait leur destin si Mohamed Ali, Barack Obama et d'autres Noirs étaient les maîtres du monde. Cela montre à quel point ils sont conscients de leur chemin de vie potentiel en tant qu'Afro-Américains. Ils savent qu'en être conscient, c'est fondamental pour leur survie. Mais ce que je trouve très important et douloureux également, c'est de penser que cette jeune mère doit enseigner le passé à ses enfants afin qu'ils puissent envisager un avenir. Il faut créer ce lien entre le passé et le futur parce qu'il n'y a pas grand-chose pour eux dans le présent. Ils ne peuvent qu'espérer que
demain sera un jour meilleur, mais voilà, devoir se rattacher à l'avenir en se basant sur le passé, c'est tragique. Mais c'est très politique, c'est une situation qui exige d'être observée d'un point de vue politique. Ce ne sont pas juste des dynamiques familiales. Les enfants incarnent donc cela, cette nouvelle génération qui est contrainte de se retourner vers le passé si elle veut avoir un peu d'espoir pour l'avenir.
Et encore une fois, dans ce que dit Ta-Nehisi Coates, à savoir le pessimisme qu'on a reproché à ses écrits, vous dites, vous, Roberto Minervini, que vous êtes obligé de faire le constat de quelque chose de très dur politiquement, de très triste en filmant ses enfants. De même, vous répondriez, si on vous faisait le reproche de faire un film triste, difficile et sans espoir, que c'est simplement ce que vous avez vu?
Yeah, what I would answer is that calling it pessimism, hopeless movies, pessimistic position.
Dire que c'est un film pessimiste, sans espoir, ce sont juste des couvertures, des mots pour ce que le mainstream pense. Et en fait, ce que ça cache, ces mots, c'est que ce film est un acte radical. Et c'est cela. Voilà l'origine du mal. Si on continue à parler de ces situations qui exigent une solution et de dire qu'en fait en parler, c'est un acte radical, et comme on le sait dans la société dont nous vivons, les actes radicaux ne sont pas autorisés, alors en fait on enterre ce combat pour l'égalité, pour l'équité. C'est une manipulation politique que de coller cette étiquette non seulement à mon travail, ça c'est le cadet de mes soucis, mais également aux mots de Ta-Nehisi Coates, de coller cette étiquette de pessimiste, eh bien, cela revient à enterrer cette lutte pour l'égalité. C'est une opération politique. Et je le refuse. Je refuse catégoriquement le fait qu'on dise qu'un film est pessimiste ou tragique. Mes films, de fait, sont des films humanistes, du moins c'est ce que je pense. Et précisément parce que je refuse qu'on me catégorise comme un cinéaste radical. Ce n'est pas un film radical. Oui, cela parle d'éléments déprimants, cela parle du passé, d'un passé douloureux, mais également c'est une projection vers l'avenir.
Vous avez l'impression que cette manière de regarder ou de pouvoir en effet déformer les productions, ce genre de films ou des livres comme Ta-Nehisi Coates, c'est une manière d'empêcher d'écouter, d'empêcher de regarder Roberto Minervini?
Absolutely.
Oui, tout à fait. Bien entendu que c'est une manière d'empêcher les gens de voir la vérité en face. Parce que personne n'a intérêt à creuser, à s'enfoncer dans quelque chose qui est pessimiste. Parce que tout cela, en fait, cela va à l'encontre du progrès. Parce que le progrès, son objectif, c'est d'écarter tout ce qui se met sur son chemin. Et ce sont des mots qui polluent la politique américaine, cette sorte de daltonisme politique, le fait d'être aveugle aux couleurs. Et d'un point de vue politique, on voudrait juste presser sur le bouton recommencer et se dire que tout le monde est égal, maintenant tout va bien. En fait, ça revient à faire cesser la lutte pour l'égalité. Et voilà, il y a tous ces sondages sur les niveaux de tolérance, de justice, sur l'accès aux besoins de base, la sécurité sociale, l'éducation. Tout ça doit être pris en compte, on ne peut pas juste appuyer sur un bouton. Et le pessimisme, en fait, est manquant, selon moi. Cela manque dans tout ce discours politique. Moi, je veux bien qu'on me qualifie de pessimisme, mais en fait, les dégâts politiques, ce n'est pas moi qui les subis. C'est une communauté tout entière, la communauté noire.
Je suis content que tu aies été avec moi, remarque bien. Parce que si tu n'avais pas été là, il m'aurait embarqué et passé à tabac. Aussi sûr que deux et deux font quatre. Pourquoi? Parce que je suis un noir, dit Caleb. La voilà la raison. Parce que je suis un noir et qu'ils sont payés pour taper sur les noirs. mais avec un petit gosse comme toi, il risquerait de s'attirer des ennuis. C'est pour ça qu'ils nous ont laissés partir. Ils savaient que tu n'étais qu'un gosse. Ils le savaient. Mais au fond, ils s'en moquaient bien. Tous les Noirs, pour eux, c'est de la merde. Rappelle-toi bien cela. Tu es un Noir comme moi. Et ils vont te haïr aussi longtemps que tu vivras. Uniquement parce que tu es un Noir. Mais je ne comprenais pas. J'étais empli d'un étonnement horrible. Ma poitrine me faisait mal. J'avais la langue paralysée. Parce que tu es un Noir.
C'est un texte de James Baldwin, lu dans une traduction française par Geoffrey Carré, et diffusé à l'époque dans Une vie, une œuvre, consacrée à la figure de James Baldwin. Mais je suis certaine, Roberto Minervini, que ça vous fait penser à une conversation que vous filmez dans votre film entre Ronaldo et Titus, ces deux jeunes adolescents. Le grand frère explique à son petit frère, quasiment dans les mots de James Baldwin, qu'est-ce qui arrive aux jeunes garçons noirs aujourd'hui aux États-Unis. Et pour nous, spectateurs blancs, européen, c'est frappant de se rendre compte à quel point ces petits bonhommes, parce que je peux difficilement les appeler comme ça, sont conscients de la violence qui les attend et qui structure la société dans laquelle ils grandissent. Était-ce une surprise pour vous ou vous attendiez-vous à trouver cela en les filmant?
If it's surprising, as a political discourse,
est-ce surprenant en tant que discours politique? Non. Mais le fait que ces deux petits garçons, devant Dieu, devant moi, le disent, donc avoir cette confirmation de la part de deux petits-enfants, cette confirmation du fait qu'il est inévitable d'hériter de cette peur culturelle, d'être conscient d'être un citoyen de seconde zone, émotionnellement, c'est extrêmement douloureux. Particulièrement quand Ronaldo enseigne à son petit frère que ce n'est pas la couleur exacte de sa peau, toutes ces différentes variations de brun. Tout cela n'est pas important parce qu'au fond, on est toujours noir. Et c'est comme ça que ça marche, pour le pire et le meilleur. Et il faut voilà, garder vivante cette identité, mais il lui rappelle également quel est le chemin semé d'embûches qui l'attend à l'avenir. Mais ce qui est très important, ce qu'il faut prendre en compte dans ce cas, où on parle de toutes les nuances de la couleur de peau, donc on pourrait se dire que plus la peau est noire et foncée, plus le seuil d'obéissance exigé des Noirs est élevé. Et donc, plus votre peau est claire, plus en tant qu'Afro-Américain, vous êtes libre. Vous pourriez, par exemple, participer à des manifestations et vous en sortir, alors que quelqu'un de plus noir ne peut se le permettre. Moi, je peux participer à des manifestations, mais pour une personne noire, c'est une transgression des règles américaines. Donc la tragédie, c'est qu'un noir, pour survivre dans une société contrôlée par les blancs, doit être très obéissant. Et le seuil de transgression est très ténu. Et je pense que c'est ce que le grand frère enseigne à son petit frère. Voilà. Peu importe quelle soit la couleur exacte de ta peau, souviens-toi que tu es noir, ce qui implique beaucoup de choses et ce qui va avoir un impact sur toute ta vie.
Et en même temps, ces enfants sont des enfants, ils jouent dans les terrains vagues, ils jouent à se faire peur les soirs de carnaval et ils attendent le train. Tout à l'heure, vous disiez, Roberto Minervini, que d'appliquer le qualificatif de pessimiste à votre cinéma, c'est une manière d'annihiler le travail d'observation que vous faites en les filmant eux, en filmant leur puissance, en filmant la puissance de Judy et celle de Crystal. Vous filmez aussi des êtres qui se donnent les moyens de peut-être transformer les choses, de peut-être aspirer à une autre vie. C'est aussi cette force-là que vous filmez.
Yeah, I find a lot of
énormément de courage dans cette communauté. Et c'est quelque chose que je n'avais pas vu depuis très longtemps, ce courage. Alors, de manière simpliste, on pourrait se dire que quand on est au fond, quand on touche le fond, en fait, on n'a pas le choix. On doit forcément se battre, être courageux. Il y a une forme de vérité là-dedans. Peut-être que certains aussi ne sont pas suffisamment conscients des conséquences de leurs actes, mais cela vient également de l'aspect inévitable de ce combat qui doit être mené. Ils n'ont pas le choix. Mais il y a également une force
qui vient de denial, complete, vehement, de total denial,
la négation complète, totale, qui vient de ce refus, de cette exclusion par une société qui les voit comme des citoyens de seconde zone. Et les Afro-Américains, eux, en retour, ont une force de déni, de refus extrêmement fort d'être considérés comme inférieurs aux Blancs. Ils le refusent dans chaque atome de leur vie. Et c'est incroyable d'y assister.
Et
moi, je me rappelle que j'ai été intimidée par Ronaldo alors que c'est un petit garçon de 14 ans et je n'arrivais pas à comprendre une question qu'il me posait. Il voulait savoir si j'étais connue parce qu'il parlait vraiment en levant le menton. Et il avait cette attitude, voilà, cette attitude qui découle de la peur des Blancs, mais une attitude qui revient à refuser d'être humilié. C'est véritablement une attitude de power et de pouvoir, et moi j'avais l'impression, voilà, que c'était aussi une accusation vis-à-vis de moi, parce que moi, en tant qu'homme blanc, je n'ai jamais eu à me battre pour moi-même. Et de même, dans ces femmes noires, il y a quelque chose d'extrêmement puissant. C'est inscrit dans leur gène, ce refus d'être écrasé. Rien ne peut les détruire, rien ne peut les écraser. Et elles le disent de manière poétique, mais c'est également brut, très tangible, très réel.
Quand l'une des figures importantes du mouvement Black Panthers va de porte en porte pour aller récupérer des récits au moment où un homme est assassiné et où on trouve une tête coupée, on sent bien que, y compris dans la communauté noire, eh bien, elle a affaire à une autre peur qui est celle de prendre la parole, de faire confiance à qui vient enquêter sur ses crimes racistes, de finalement sortir de sa petite maison pour participer à la lutte, comme si vous, d'un seul coup, vous filmiez Roberto Minervini, un mouvement de courage et d'émancipation que vous venez de décrire, et de l'autre côté, toute une société quasiment enfermée et simplement voulant comme éviter les coups.
Il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être courageux et le fait de vouloir se protéger et protéger sa famille. Alors, évoquons cette situation où un homme a été décapité. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il sortait avec une blanche. C'est à Jackson, Mississippi, donc une ville qui compte 80% de Noirs, et personne en fait ne sort. C'est une ville assiégée parce qu'autour, c'est entouré par le Ku Klux Klan. Imaginez cette situation. J'étais avec les Black Panthers quelque part ailleurs, en Louisiane, donc on était sur le porche d'une maison. On a conduit, voilà, 3-4 heures, en fait, pour aller sur cette maison, parce que quelqu'un nous avait appelé pour dire qu'il y a une tête sur mon porche, il y a du sang partout. On est arrivé, il n'y avait plus de traces de sang, plus de tête, et le FBI, en fait, s'était rendu là avant nous, il avait intimidé toute la communauté, ils avaient retiré les vidéos, enfin, les bandes des vidéos de surveillance, et en 2 heures seulement, ils ont décidé que c'était une affaire de suicide, et le corps a disparu. Historiquement, concept, voilà, voilà, si on ouvre, si on l'ouvre, entre guillemets, si on dit ce qui s'est passé, en fait, on risque d'être puni par les institutions. Donc, ne pas parler, ne pas témoigner, c'est une question de survie. Parce que sinon, cela revient à lutter contre les institutions qui remontent jusqu'au gouvernement américain. Et les Black Panthers essayent de mener leur enquête de leur côté, donc au sujet de cet assassinat. Mais ce cas, cette affaire a été classée comme suicide et la presse n'en a même pas entendu parler. C'est extrêmement dur de lutter contre de telles forces. Et pour ces gens, ne pas parler, c'est une question de survie. Le simple fait d'être là-bas, de savoir, voilà, qu'ils risquent d'être attaqués et de ne pas s'enfuir de ce quartier, déjà, ça, c'est un courage énorme.
Il y a une autre réalité que vous filmez, Roberto Minervini, c'est celle de la drogue et de la consommation de drogue. Tout à l'heure, on évoquait cette femme forte, tenancière du bar Judy, et on disait qu'elle revenait de loin. C'est d'ailleurs l'objet d'un très beau dialogue entre elle et sa mère. Et ce revenir de loin veut notamment dire revenir de ce monde de la consommation de la drogue. Vous l'avez vu comme quoi ? Comme signifiant quoi cette scène de consommation de drogue, Roberto Minervini?
Bien entendu, il y a des problèmes d'addiction. C'est une des formes que prend la criminalité. Et cela fait partie de l'héritage d'une certaine classe socio-économique. Et qui est en général, en Amérique, combinée à la condition raciale. Donc, parce que tout en bas de l'échelle socio-économique, ce sont les Noirs. Donc, il y a beaucoup de désespoir, des familles brisés. 30% des hommes noirs, rappelons-le, sont en prison aux États-Unis. Et donc, en général, les foyers sont dirigés par des femmes qui ont très peu d'argent, très peu de moyens pour de joindre les deux bouts et donc, ou de faire entendre leur autorité. Et donc, ça, c'est l'histoire de Judy. Elle a été victime d'abus sexuels et elle a trouvé du réconfort dans l'addiction à la drogue. Voilà, prendre de la drogue. En fait, cela revient à prendre le médicament que vous avez sous la main pour soulager votre douleur. Et donc, bien entendu, c'est plus répandu dans les endroits où il y a davantage de douleur. Donc, Judy, pendant des années, était incapable de surmonter sa douleur. Elle était traumatisée, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et cette force dans l'histoire de Judy, qui n'est probablement pas la seule femme à avoir fait ça, et bien sa force, c'est d'avoir finalement eu le courage d'en parler, de se relever et de refuser d'être écrasée, détruite par l'addiction. J'ai fait des films sur la drogue auparavant et je n'ai pas trouvé la même résistance que celle que j'ai trouvée dans cette communauté noire. Oui. Effectivement, pour moi, c'est une scène pleine de pouvoir, une scène responsabilisante, une scène d'intimité, de lien entre ces deux femmes, quelque chose qu'on ne ressent sans doute plus dans la communauté blanche. Donc, trouver de la force et du réconfort dans ce lien humain entre ces deux femmes. Et il est très important également que voilà, l'énergie féminine soit partout dans cette scène.
Les photos sont bien parce qu'ils ne bougent pas. L'image de photo, c'est toi qui le choisis. Mais l'image du cinéma, c'est un peu aussi le spectateur qui doit suivre l'image. Tandis que dans la photo, le spectateur fait l'histoire lui-même. Pour moi, quand je fais la caméra pour le film, je ne pense pas aux photos, aux compositions de photos. Ça doit être naturel, c'est un réflexe naturel que j'ai. Alors, ça m'intéresse le mouvement pour l'image. Que j'arrive à montrer la nervosité que je sens envers l'acteur ou envers ce que je photographie. Et c'est toujours, je crois, un morceau très important de cette nervosité de bouger la caméra. Ce sont des pas qu'on prend quand on fait des films. On n'est pas sûr. Le premier, on apprend toujours, et l'intérêt pour moi, que le film a pour moi, c'est que chaque film, j'apprends beaucoup. Dans la photo, ça n'existe plus pour moi, cette chance d'apprendre quelque chose. It's not there. Mais tandis que le film, je peux encore être surpris que, comme ça marche, comme ça réussit. Et c'est pour ça que je continue à faire de films.
On est en 1999 et c'est les entretiens à voix nue de Robert Franck qui parle de son passage de la photographie au cinéma. Mais peut-être, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, Roberto Minervini, dans la dernière partie de cette archive, il dit « Chaque film est une manière de faire un pas supplémentaire et d'apprendre quelque chose de supplémentaire. Que diriez-vous de celui que vous signez? Que diriez-vous que vous a appris « What you gonna do when the world is on fire » ?»
On vient d'écouter Robert Franck, et je paraphrase certains de mes mentors qui sont des photographes à l'origine. Moi, j'ai été entraîné, j'étais formé comme photographe de guerre, comme réalisateur. Donc, ce qu'on apprend, en fait, dans les images, c'est ce qu'on ne voit pas. Et il faut faire confiance à ce que l'on voit, que l'on soit un photographe. On doit faire confiance, en fait, et se dire que la photographie que l'on fait, qu'il s'agisse d'une photographie ou d'un film, eh bien, c'est juste un extrait de quelque chose de bien plus grand. Et il faut y croire d'un point de vue sensoriel, pas uniquement intellectuel. Y croire, se dire qu'il y a quelque chose de bien plus grand derrière ça. Et le film, c'est une réponse à ce qui est bien plus grand. Ce film porte l'émotion à laquelle j'ai assisté, l'émotion de ces personnes, il le transmet. Mais il faut regarde ce film comme on regarde des photographies de guerre de Robert Franck et être convaincu que la vérité est bien plus grande que cela. Alors moi, et il faut refuser d'être qualifié de radical pour cet acte de témoignage.
Merci beaucoup à vous, Roberto Minervini. What We Gonna Do When the World Is on Fire, c'est le titre de votre film. Il sort en salle la semaine prochaine. Et merci à vous, Chloé Billon.
Black is the color of my true love's hair. His face so soft and wondrous fair. The pure and the strongest hands. I love the ground on where he stands. I love the ground on where he stands.
Au son ce soir, c'était Delphine Baudet à la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, on se retrouve lundi prochain à 21h. Quand vous voulez, sur franceculture.fr, vous pouvez réécouter tous les entretiens de la semaine et ceux des semaines passées. Et aussi, pour plus de facilité, je ne vais pas directement vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. Un grand merci à Anna Baron, Jeanne Aléos, Lou Quevauvillier, Marianne Chassor et Romain de Bec-de-Lièvre qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Je vous souhaite une très belle soirée sur France Culture.
My lover, and well he knows.
yes, I love the ground on where he goes, and still I hope that the time will come when he and I will be as one, when he and I will be as one.
Say.